Les séminaires du Collège de France.
Merci Tim de m'avoir invité et bonjour à tous. Aujourd'hui, ce que je vais parler, notamment du projet Luminade et de qu'est-ce qu'on fait, mais la présentation va se dérouler en trois parties. La première partie, je vais donner un peu de contexte de l'état de l'art de, on va dire, theorem, automatic theorem proving, mais avec un focus sur le LLM. Donc je vais très peu parler des méthodes, autres méthodes que les méthodes utilisent ce qu'on appelle les large language models. Ensuite, je m'intéresse plus à l'approche qu'on a proposée pour gagner ce Progress Prize. Et à la fin, je vais... présenter... le roadmap actuel de Numina qui est en lien très fort avec les mathématiques formelles. Donc, comment on compte utiliser les LLM avec des maths formelles afin de résoudre des exercices de maths. Alors, donc, je vais reprendre un peu qu'est-ce que c'est cette compétition. Ça a été lancé l'année dernière par XTX Market et le comité de AMO, qui est considéré comme une des compétitions les plus challenging pour des élèves au lycée de maths compétitif. Et ils ont lancé 10 millions pour le premier modèle public qui a dans le niveau médaille équivalent de niveau médaille d'or que les humains. Et on s'en doutait bien, enfin en tout cas il y a un an que tout de suite il n'y aura pas de modèle qui aille aussi loin. Donc ils ont aussi conçu des progress prize, donc des challenges un peu moins difficiles pour que les gens en tant que milestone intermédiaire, pour que les équipes puissent avoir des résultats intermédiaires, on va dire. Et donc nous, l'équipe Lumina, on a participé au premier Progress Prize. La forme de compétition est telle que... Déjà, la compétition était sur Kaggle et on a 5 ans d'exercice de maths à résoudre. Je vais détailler un peu plus quel genre de problème, mais ce sont des problèmes qu'on appelle... avec une sortie numérique. Donc, c'est, en anglais, des fois, ils appellent ça Math World Problem. Donc, ça facilite notamment la vérification. Donc, on va juste compter combien d'exercices que le modèle a réussi à résoudre pour créer ce ranking. Typiquement, ça, c'est un des exercices. Donc, c'est vraiment des exercices type un math compétitif avec une sortie numérique. En termes de difficulté, dans ce Progress Prize, les problèmes de maths est entre ce qu'il appelle AIME et AMC 12 level. Donc, c'est deux compétitions aux États-Unis qui permettent de sélectionner l'équipe nationale pour participer au AMO aux US. Alors, avant de comprendre comment nous on a réussi à gagner cette compétition et comment ce domaine-là va se développer suite à ça, on va d'abord regarder qu'est-ce que ça veut dire utiliser un large language model pour résoudre des maths. Alors d'abord, il manquait quelques slides pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est les LLM. Je pense que la plupart d'entre vous a pu utiliser ChatGPT ou des modèles équivalents. Il faut garder en tête. Je refais un peu l'histoire de comment les gens sont arrivés à faire des maths avec ce genre de modèle, mais il suffit de garder en tête, ça a l'air très compliqué, mais en réalité c'est beaucoup plus simple par rapport à des mathématiques que les mathématiciens font. Il faut garder en tête les LLM aujourd'hui, ce que ces modèles savent faire, c'est prédire le prochain mot. Enfin, plus exactement, c'est l'ex-token prediction, mais on va simplifier pour dire que c'est des modèles qui prédisent le prochain mot avec des corrélations. On peut avoir des justifications plus ou moins complexes que ça, mais en réalité, tous les modèles qu'on voit, que ce soit des modèles très avancés comme ChatGPT ou des modèles très simples, open source qu'on trouve. Ils font tous la même chose, c'est qu'ils essayent de manière récurrente prédire le prochain mot avec des corrélations qu'ils ont apprises dans notre dataset de training. Ça paraît un peu loin, tu vois, comment un modèle qui prédit le prochain mot pourrait faire des maths. Alors, avant de comprendre comment ces modèles fonctionnent, ou c'est plutôt avant de comprendre qu'est-ce qui fait que ces modèles marchent bien, on va commencer pour regarder les datasets. Alors, dans le domaine de machine learning, les datasets sont critiques pour le développement d'un domaine. Souvent, c'est un dataset qui va guider pendant des années le développement d'une famille de technologies. Donc, le plus connu pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le domaine, c'est le dataset ImageNet. Donc, il y a pu, je pense que les 10 dernières années des progrès de computer vision sont grâce à la construction de ce dataset. Donc, les gens ont aussi passé pas mal de temps à essayer de construire des datasets pour mesurer comment un modèle, à quel point un modèle fait bien des maths. Donc, il y a plusieurs tentatives. Moi, je vais, par exemple, à gauche, il y a un système formel qu'on appelle le MetaMath. Je ne connais pas très, très bien, mais il essaie d'avoir un système plus simple pour représenter un théorème de maths de manière symbolique. On a aussi des datasets algorithmiques, enfin arithmétiques, qui cherchent à mesurer à quel point un modèle fait bien l'arithmétique, tout simplement. Alors, le dataset le plus important qui a guidé le développement des 3 dernières années sur ce domaine, c'est le dataset de Math qui a été construit par Dan Hendricks. Donc, il est très simple. C'est une collection de problèmes compétition aux États-Unis. Et en fait, une des difficultés de savoir est-ce qu'un modèle sait faire des maths, c'est de juger est-ce qu'une prof est correcte ou pas. Et ça, ce n'est pas un process scalable. Pour les humains, on a toujours les professeurs qui vont corriger les copies, mais pour les modèles, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut toujours trouver une manière automatique pour vérifier est-ce qu'une prof est correcte. Donc, du coup, on a, et jusqu'à maintenant, ça a toujours été vrai, on utilise toujours un proxy. Donc, on évalue seulement sur l'ensemble des problèmes qui ont une sortie numérique. Et ces sorties numériques-là, on va les parser pour savoir est-ce que le modèle a réussi à trouver quelque chose de manière équivalente. Mais on ne cherche pas à comprendre est-ce que la solution est correcte ou pas. Donc, c'est ce dataset-là avec 12 000 problèmes qui a guidé le développement des LLM dans les 3 dernières années. Et tous les LLM vont s'évaluer dessus jusqu'à même aujourd'hui. Alors, donc, le premier modèle qui... Enfin, il y a beaucoup d'efforts avant, bien évidemment, pour arriver à là. Mais le premier milestone, on va dire, très important dans le domaine des LLM, c'est le travail de DeepMind qui s'appelle Minerva. Minerva, alors pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce domaine-là, y compris moi quand j'ai commencé ma carrière dans ce domaine, vont avoir cette réflexion que pour qu'un modèle, un algorithme, afin qu'il puisse faire les maths, ça doit forcément avoir des mécanismes très compliqués. Parce que mathématiques, pour les humains, c'est quand même un exercice intellectuel très élevé. Alors que Minerva, ce papier, il essaie de démontrer qu'il n'y a rien qui est compliqué dedans. C'est vraiment la leçon à retenir. Et cette philosophie-là est restée jusqu'à aujourd'hui, même si on a des systèmes extrêmement performants. On va d'abord regarder les chiffres. Est-ce que je vais présenter ? Voilà. Donc, l'indicateur du progrès de ce domaine, c'est vraiment ce colonne-là qu'il faut regarder. Donc, MAT, c'est le dataset que je viens de parler. Donc, on mesure la accuracy, le pourcentage d'exercices qui a été résolu par le modèle. Et donc, vous voyez que l'état de l'art, il y a 3 ans. Ce dataset, il a 3 ans. Et l'état là, il y a 3 ans, c'était 7%, qui est logique. Hein, et si on fait un modèle statistique, c'est très peu probable qu'il arrive à résoudre ces problèmes-là. Et que Minerva, pour la première fois, montrait que, ben, en fait, avec des LLM, on est capable d'aller très 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 loin. 50%, c'était. Même si aujourd'hui, ça paraît trivial. Aujourd'hui, tous les modèles font plus que 50%. Mais à l'époque, c'était un choc. Et par contre, si vous regardez dans Minerva, il va vous dire que, au lieu de créer des systèmes hyper compliqués, utiliser MetaMath ou tous les systèmes formels, il suffit de créer un dataset où il y a des expressions en LaTeX et on va demander au modèle d'apprendre à faire des maths en LaTeX. Il n'y a pas de processing compliqué, c'est du LaTeX que tout le monde écrit. Donc il suffit un modèle de transformer qui apprend sur un corpus relativement large de données en LaTeX, et ben ils vont capables naturellement faire des maths. Alors donc ça c'est la première chose, faire des maths comme des humains. Donc ça c'est l'approche informelle, on va apprendre au modèle à écrire du LaTeX. Deuxième idée la plus intéressante, qui paraît toujours triviale aujourd'hui si tu demandes à n'importe qui dans le domaine, c'est ils ont introduit, enfin je sais pas si c'est les premiers à introduire ça, mais le majority voting. Alors, qu'est-ce que c'est le majority voting? C'est toujours très simple. Ils ont des mots très compliqués pour les choses très simples, mais vous allez voir que ces choses aussi simples qui font le succès de ces modèles et jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui qui est assez spectaculaire. Donc, le majority voting, ça veut juste dire que ces modèles-là, donc qui prédisent le prochain mot avec une probabilité, il y a un paramètre qui s'appelle température. Donc, plus que la température est haute, puis qu'il y a des aléatoires dans la prédiction de ces modèles-là. Donc on va mettre une température élevée et on va sampler, je pense qu'ici c'est 64 fois, et ensuite on va extraire la réponse finale, on va faire une vote. Et c'est une astuce aussi simple que ça, permet de booster significativement la performance, et aussi cette astuce a des impacts importants par la suite. Donc, à quoi ça ressemble l'output d'un modèle? C'est, il y a rien de sorcier, c'est un modèle qui apprend à faire du LaTeX, et à la fin, il va mettre, comme un humain, un box à la sortie finale. Alors, la deuxième idée, ou la troisième, enfin, il y a une autre idée qui est assez importante et qui paraît aussi triviale, aujourd'hui, quand on le regarde, c'est ce qu'on appelle le chain of thought. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens ont découvert que, mais vu que ces modèles-là, voilà, là c'est important de garder en tête que ces modèles ne savent faire que prédire le prochain token avec des corrélations. Donc, si on a un exercice de maths et on demande au modèle de directement prédire la solution finale, ils ne vont pas réussir à le faire. Parce que le gap de corrélation entre 11 et ce problème-là, il est extrêmement large. Et c'est presque impossible de deviner que la réponse est 11. Donc, une meilleure manière de faire ça, c'est pour que le modèle output les étapes intermédiaires, ce qu'on appelle le chain of thought. Alors, dans sa forme initiale, les chain of thought sont aussi très basiques. Aujourd'hui, si vous demandez à ChatGPT, ils vont créer des chain of thought qui est extrêmement longue pour arriver à la solution finale. Et ça par miracle, ça booste la performance de manière significative. Donc ici, ensuite il y a une troisième idée, enfin une quatrième ou troisième idée qui est assez intéressante, mais d'abord je voudrais 2 ans, enfin ou 1 an et demi après que ce benchmark a été sorti, je pense qu'il y a 10 ans personne aurait osé penser que une machine saurait résoudre 60% des exercices compétitifs maths au lycée. Bah, 1 an après ce benchmark, on voit que même des modèles relativement petits, qui contient 7 milliards de paramètres, arrivent à faire mieux que Minerva, qui contient 50 milliards de paramètres. Et il y a une autre idée qui est intéressante ici, que je vais développer tout à l'heure, plus en détail, c'est le fait de permettre aux modèles d'utiliser du code. Parce que, en fait, si vous avez utilisé ChatGPT, il y a un phénomène qu'on appelle hallucination. Donc, les modèles vont halluciner pendant la résolution d'un problème. Et en fait, le fait d'utiliser du code permet de réduire ce genre de phénomène. Alors, il y a Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a beaucoup d'efforts open source. Donc, en fait, jusqu'à très tard, enfin jusqu'à relativement tard, la plupart des modèles sont propriétaires, donc ils sont pas open source. Les gens savent pas comment ils sont entraînés. Donc, il y a une série de papiers qui consistent à reproduire ce genre de papier, ce genre de modèle de manière open. Donc, typiquement, DeepSeek, c'est une équipe en Chine qui ont réussi à publier, qui ont publié un papier en disant, bah, en fait, comment collecter des données mathématiques de bonne qualité pour pouvoir créer ce genre de modèle. Et que, encore une fois, si vous lisez le papier, il y a plein de heuristiques extrêmement intéressantes, mais il n'y a rien de très compliqué intellectuellement. C'est vraiment comment on arrive à identifier des données mathématiques de bonne qualité. Il y a une dernière idée la plus assez remarquable dans ce domaine, et en fait, si vous assemblez toutes les idées que j'ai décrites et vous essayez ce qu'on appelle le scaler, c'est-à-dire faire ça à grande échelle avec beaucoup de données et beaucoup de compute, vous arrivez à ce qu'on voit aujourd'hui qui est GPT-01, qui est le modèle le plus puissant qui sait faire des maths qu'on voit aujourd'hui. Donc la dernière idée la plus intéressante, c'est de donner du feedback au modèle, c'est-à-dire que un modèle, quand on essaie de faire des maths, ils vont produire des étapes. Et une des difficultés, comme on l'a dit, c'est que si on a une preuve, il est très difficile de savoir est-ce que il y a une étape qui est fausse ou pas. Donc, OpenAI a proposé de faire ce qu'on appelle un reward model. Donc, c'est un modèle comme un prof qui va corriger la sortie du modèle en mettant un score à chaque étape. Et la façon de faire ça, c'est très bête. Ils vont créer un dataset avec plein d'énoncés et des solutions qui pourraient être fausses, et ils vont demander à un humain à donner une note, et ensuite ils vont apprendre un modèle à simuler le process d'un prof qui corrige une solution. Alors, il y a aussi des alternatives quand on n'a pas autant d'humains qui annotent des données pour nous. Donc, MathShaper, c'est un des travaux qui consiste à reproduire la même chose avec ce qu'on appelle du Monte Carlo Tree Search sans utiliser les humains. Donc, jusqu'à maintenant, toutes les idées et tous les progrès qu'on a vus se concentrent sur la partie qu'on appelle informelle. C'est-à-dire qu'on demande un modèle à écrire une preuve comme un humain. Et le gros défaut de ce mode de fonctionnement, c'est qu'on n'est pas capable de savoir si la preuve est correcte ou la solution est correcte, à part de regarder la réponse finale. Jusqu'à cet été, donc c'est une semaine après la remise de prix de AMO, DeepMind a annoncé AlphaProof. Donc c'est le premier modèle qui a réussi à résoudre les problèmes d'AMO de ce niveau tout court, et ils ont réussi à atteindre le niveau médaille d'argent qui est très très proche de médaille d'or. Alors, c'est pas, vous allez voir que en fait c'est pas DeepMind qui a inventé ce workflow ou cette façon de faire des maths avec des modèles. Hein, cette façon de faire les choses existe probablement pendant 2-3 ans, mais ce sont les premiers à mettre cette approche-là à l'échelle. Donc, leur approche, il est relativement simple, on va dire. Ils ont beaucoup de problèmes. Ils ont collecté énormément d'exercices de maths qui ont été écrits par les humains. Et ils ont demandé, donc ils ont utilisé ce qu'on appelle les maths formelles. Donc, vous connaissez peut-être, je vais rentrer un peu dans les détails plus tard. Et ensuite, ils ont demandé, enfin, l'avantage des maths formelles, c'est qu'ils sont capables de, si l'énoncé a été traduit correctement, on peut vérifier via le compilateur que la preuve est correcte. Donc, ça fournit un feedback au modèle. Et l'avantage de ça, c'est que si vos modèles savent écrire des maths formelles et ensuite vous êtes capable de donner un feedback, vous ramenez le problème un peu comme un problème de jeu aux échecs. Donc, ils ont appliqué ce qu'ils appellent AlphaZero, c'est la technique qu'ils ont utilisée pour faire le AlphaGo. Donc, vous pouvez explorer l'espace des preuves mathématiques un peu comme vous jouez aux échecs. Donc, vous pouvez vraiment faire des méthodes de search de manière très efficace. Et du coup, avec beaucoup de données, beaucoup de compute, ils ont réussi à résoudre 4 problèmes sur 6 lors de dernier AMO. Et les deux problèmes qu'ils n'ont pas résolus, ce sont les deux problèmes combinatoires. et qui est connu pour être très difficilement formalisé. Je vais parler un peu de maths formelles. Alors, je crois que je dois accélérer un peu. Donc, du coup, maintenant, on va parler du projet Illumina. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce sont, on va dire, un groupe de personnes qui sont passionnées par des mathématiques. Dont on a tous presque été... on va dire, ce sont des gens relativement connus dans le domaine des AF en maths. Donc, moi, Yann, c'était mon ancien associé quand on faisait une start-up. Mais Guillaume Nam, vous connaissez peut-être, c'est le cofondateur de Mistral AI. Donc, lui aussi, il a fait beaucoup de travail dans ce domaine-là. Stan Pollu, qui a été speaker une fois ici. Donc, c'était le premier pionnier, on va dire, dans le domaine de LLM pour faire des maths. Et Hélène, c'est aussi une amie qui s'intéresse au sujet. Et nous, on décide de... Voilà, je vais peut-être expliquer à la fin un peu pourquoi on décide de faire ça. Mais Illumina, c'est une organisation non-profit, open source, qui permet à tout le monde qui s'intéresse au sujet de venir et collaborer ensemble. Et notamment, ce qu'on fait, on essaie de publier les datasets qui permettent de construire ce genre de modèle très puissant. Et aussi, on développe l'infrastructure et parfois nous-mêmes des modèles qui permettent de faire avancer le domaine de AI for Math. Alors, je vais probablement aller très vite parce qu'il y a probablement trop de détails techniques. Donc, dans ce Progress Prize, on a monté un partenariat avec Hugging Face pour participer à cette compétition et créer le modèle. Alors, je vais rapidement parler de notre approche, de comment nous on a réussi à on va dire gagner cette compétition. Hein, c'est un setup vraiment très particulier, donc on a fait plein de choix, mais pour rentrer dans les contraintes du jeu, qui sont peut-être pas nécessaires si on veut faire en sorte que l'IA puisse aider les mathématiciens de manière générale. Donc, à quoi ça ressemble notre modèle? Alors, c'est un peu confusing, il ne faut pas regarder problem example, il faut regarder problem rendered. Donc, ici, vous avez un problème de maths à résoudre. Donc, il faut oublier ce qui est là-haut. Mais vous avez un problème de maths à résoudre. Ce que le modèle va faire, c'est qu'il va faire un peu de raisonnement informel, on va dire, donc faire un peu de planning pour expliquer ce qu'il va faire par la suite. Ensuite, il va essayer d'écrire un code en Python qui reflète ce problème-là. Et essayer de résoudre en Python. Et s'il arrive à le résoudre, il va essayer de conclure. S'il n'arrive pas, il va répéter le process. Donc ça, c'est ce qu'on appelle True Integrated Reasoning. Donc c'est un modèle, c'est un LLM qui utilise des outils pour résoudre des tâches, voilà, comme faire un problème de maths. Alors, la façon d'entraîner ce modèle-là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée, c'est que ça s'entraîne en deux étapes. Enfin, en tout cas, une des façons de le faire, c'est entraîner en deux étapes. D'abord, il faut entraîner sur les données de maths, comme j'avais expliqué. Donc, il faut que les données soient en LaTeX, soit en Chain of Thought, c'est avec toutes les étapes de raisonnement bien détaillées. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle du fine-tuning pour obtenir un modèle qui sait faire un peu des maths. Ensuite, une deuxième étape, on va essayer de collecter plein de données comme ça, qui font un peu de reasoning, qui font un peu du code, qui sait conclure selon le résultat du Python. Et donc c'est ce qu'on appelle la partie True Integrated Reasoning. Donc c'est un fine tuning en deux étapes. Le process de fine tuning est relativement classique. Je vous encourage à lire, mais pour être sincère, il y a rien de très compliqué là-dedans. Là où on a passé beaucoup de temps, c'est de créer les données, c'est d'essayer de collecter ce dataset. Aujourd'hui, dans le domaine d'AI for Math, ce qui manque le plus, c'est pas de la théorie de comment faire du reinforcement learning, mais c'est surtout les données. Et ce qui fait le succès de DeepMind, c'est aussi leur dataset de 100 millions de problèmes. Donc, pour réussir à faire ce modèle Illumina Math, on a dû créer trois sources de données. D'abord, on a collecté beaucoup d'exercices de concours de bac en Chine, parce qu'il y en a beaucoup. En Chine, les gens passent beaucoup d'examens, si par hasard vous les connaissez. Et Donc ça, c'est je pense qu'on a dû avoir 400 000 problèmes qu'on a collectés depuis la Chine. Et aussi, un autre dataset qui est extrêmement important, ce sont les données olympiades qu'on trouve sur les différents sites web. Et aussi maintenant, de plus en plus, les gens essaient de faire les données synthétiques. Alors, je ne vais pas, malheureusement, pas pouvoir rentrer trop dans les détails, mais encore une fois, j'ai essayé de donner un message qui est vraiment... C'est un domaine qui paraît spectaculaire lorsque vous regardez ce que font OpenAI, lorsque vous essayez un ChatGPT, c'est bluffant, mais toutes les idées derrière, tous les travaux derrière, c'est beaucoup d'efforts d'ingénierie. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une science qui demande beaucoup de réflexion intellectuelle, on va dire. Donc, comment nous, on a créé le dataset? C'est très simple. On a parcouru quasiment tous les sites officiels des compétitions des Olympiades. On a récupéré plein de PDF comme ça. Et on a segmenté tous les problèmes et on a mis en paire avec la solution. Et donc, ça, c'est la façon de créer le dataset. Et tel que vous avez un dataset comme ça, il y a beaucoup de librairies qui vous permet d'entraîner un modèle très puissant. Voilà, donc ça, c'est 80% du travail qui consiste à parser ces PDF. Donc c'est les pays dans lesquels on a collecté les exercices de maths. On a utilisé ce qu'on appelle le chain of thought. Donc ça, c'est une preuve qui est ce qu'on appelle la référence solution pour les humains. Mais en fait, il n'est pas assez détaillé pour un modèle puisse bien apprendre. Donc il va falloir le développer en une forme chain of thought, donc avec toutes les étapes détaillées pour que le modèle puisse raisonner correctement. C'est les différentes sources de données. Voilà. Et à la fin, il y a quand même un peu de détails techniques, mais je vais probablement pas passer beaucoup de temps. Pour générer ce genre de données, on utilise une technique qui s'appelle rejection sampling. Donc on va essayer de demander à un modèle de générer des preuves et on va garder les preuves qui atteignent la réponse finale comme une bonne preuve pour à la fin entraîner un modèle. Je rentre pas trop dans la technique, mais l'idée, il suffit de retenir, il faut avoir beaucoup de données de bonne qualité pour que le modèle puisse apprendre. Voilà. Inférence. Tout ça, ça a l'air très compliqué, mais tout ça pour dire que quand on a entraîné un modèle, aujourd'hui, pour avoir des bons résultats lors d'une compétition, la meilleure façon, c'est de prendre un modèle et de sampler plusieurs solutions et de faire du majority voting. Voilà. Donc c'est ce que ça veut dire, cette slide-là, même si, malgré le fait qu'il a l'air assez compliqué. On a aussi utiliser les techniques de quantisation parce qu'il y a des contraintes de compute. Alors, ça, c'est peut-être plus intéressant à discuter. Voilà, je vais plutôt parler de cette slide-là. Donc, on regarde toujours la ligne maths. Après, les autres sont intéressants. Hein. Mais vous voyez le progrès de ce qu'on a pu faire en 2 ans. Hein, au début, l'étalage était de 7%, et aujourd'hui, le modèle plus avancé de GPT, ils sont déjà presque à 90% sur ce benchmark-là. Sur un benchmark un peu plus compliqué, qu'on appelle AIME, ce sont des problèmes un peu plus challenging, qui est encore moins difficile que les AMO. Aujourd'hui, enfin, nous, on a réussi à faire 10 problèmes sur 30 avec du majority voting. Je crois la dernière version de GPT, ils ont réussi à faire 20 problèmes sur 30, quelque chose comme ça. Mais la technologie derrière, le principe derrière reste les mêmes. Donc, c'est juste plus de données, plus de compute qui vous donne un modèle plus puissant. Je vais peut-être passer un peu. Je pense que c'est intéressant d'analyser un cas, donc je vais quand même passer un peu de temps ici pour que vous compreniez un peu comment ces modèles fonctionnent et comment ça résonne. Donc, une des grosses limitations de cette approche, c'est aussi pour ça qu'on va maintenant DeepMind ou d'autres équipes s'intéressent aux maths formelles, c'est que lorsque vous passez beaucoup de temps à optimiser les problèmes avec sortie numérique, vous risquez de tomber dans ce piège où le modèle a réussi à brute forcer ou trouver la solution, la réponse finale, mais la solution est complètement fausse. Par exemple, pour ce problème-là, donc le modèle, il a juste fait un brute force, deux boucles fortes pour trouver une solution. Et donc ça, c'est la solution qui a été trouvée. Et malheureusement, c'était la seule solution aux équations. Alors, un modèle plus intelligent aurait pu essayer de démontrer qu'il n'y a pas de solution en dehors de 0 et 100, et donc ça aurait pu compléter la preuve, mais aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on observe souvent dans les problèmes avec sortie numérique, que le modèle essaie juste de trouver la solution triviale. Ici, c'est un autre cas qu'on doit regarder aussi, c'est assez intéressant. Je vais quand même passer quelques minutes à analyser ce cas-là. Donc ça, c'est un exercice qui n'est pas très difficile. Aussi, ça vous permet de donner une idée. Il y a 3 ans ou il y a 4 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'un système ou un modèle puisse avoir ce genre de réflexion qui ressemble vraiment, qui commence à ressembler à un humain. Donc, on a cet exercice-là qui consiste à résoudre un système d'équations. Pour ceux qui ont fait un peu de maths de compétition, on peut très facilement observer qu'avec le log, ça se décompose en un système linéaire. Et du coup, une fois qu'on a un système linéaire, c'est relativement facile à calculer cette valeur. Donc, on va regarder comment un modèle il fait ça. Alors, c'est un peu petit, mais vous voyez que le modèle a essayé de faire des simplifications, mais il n'a pas réussi à trouver la bonne piste. En tout cas, ce modèle-là qui s'est utilisé du Python. Donc, il va donner l'équation telle quelle à un solveur de Python symbolique qui s'appelle SymPy. Et par miracle, SymPy, ce qui n'est pas toujours le cas, a réussi à trouver une solution numérique. Et ce qui est encore plus surprenant, parce que ici, on demande une solution algébrique. Donc, ici, ce qui est. Le modèle a remarqué que cette valeur numérique ressemble beaucoup à une valeur algébrique. Donc, il a directement proposé la valeur algébrique qui est correcte, bien évidemment, comme sortie finale. Donc, on a eu bon sur cet exercice-là. Alors, si on regarde un autre modèle qui n'a pas cette capacité de faire du Python, on va voir que au début, il fait n'importe quoi, il arrive à une étape ici qui est complètement fausse, mais à partir de cette ligne-là, le modèle a réussi à trouver la bonne piste de décomposer ce truc-là en un système linéaire. Alors, c'est aussi très courant que si vous allez sur ChatGPT, vous demandez à résoudre un système linéaire, il sait faire ça parfaitement, presque à tous les coups. Mais si, au plein milieu d'une preuve, il est amené à résoudre un système linéaire, d'emblée, il va oublier comment résoudre un système linéaire. Donc, il va appliquer les astuces qui n'est pas absurde pour essayer de trouver la valeur, et en plus, il a fait une erreur, et donc la réponse est complètement fausse. Mais le raisonnement est là. On va dire. Et ça, c'est une version assez ancienne de GPT, et maintenant, je pense qu'il arrive à résoudre ce problème-là sans aucun souci. Alors, du coup, la raison pour laquelle je donnais cet exemple, c'est que lorsqu'on fait du informel, il y a beaucoup d'imitations. La plus grosse contrainte, c'est qu'on n'est pas capable de vérifier si une preuve est correcte, on n'est pas capable d'appliquer, enfin si on est capable, mais avec beaucoup plus d'efforts, d'essayer d'appliquer les algorithmes de search pour élargir un peu l'espace de recherche. On pense enfin tout le monde a pensé en même temps que d'outils, les maths formelles. Alors pour ceux qui connaissent pas qu'est-ce que c'est les maths formelles, donc ça a été, enfin je pense que la théorie, une bonne partie de la théorie, je suis pas expert du domaine, mais une bonne partie de la théorie a été développée en France par professeur Thierry Croquant, je crois. Du coup, la premier langage formel, je sais pas si c'est le premier, mais probablement une des premiers, c'est Coq. Qui est toujours très active aujourd'hui. Donc, c'est basé sur une théorie qui s'appelle le calculus of construction, que je ne maîtrise pas, mais il faut retenir qu'on peut programmer, avec beaucoup d'efforts, mais on peut programmer un théorème mathématique en une espèce de code, Et donc, il y a une théorie qui nous dit que si, il y a une équivalence entre la proposition et le type d'une fonction, et si on arrive à prouver que le type existe, alors que la preuve est correcte. Donc, pour expliquer avec les mains, c'est que si on sait faire du code et que le compilateur va nous aider à vérifier si la preuve est correcte, sans espace d'erreur. Donc, ce qui est intéressant, pourquoi ? Parce que l'un des premiers modèles qui a un peu changé la perception du monde vers des LLM, c'est OpenAI Codex. Et Codex, justement, c'est un modèle qui sait faire du code. Donc les gens, naturellement, pensent que si un modèle sait faire du Python, avec suffisamment de données, il saurait faire des maths formelles. Typiquement, dans un des papiers de Guillaume Lample, il essaie d'utiliser Codex pour traduire des preuves informelles vers du maths formel. Donc à l'époque, c'était encore du Isabelle et Line 3, et ils ont réussi à montrer que ça marche vraiment très bien. Une fois qu'on arrive là, on va dire qu'il n'y a pas beaucoup de découvertes théoriques, même si on voit quand même tous les jours des papiers sur ce domaine-là qui sort, qui est derrière AlphaProof. Enfin, après, moi, je ne connais pas concrètement qu'est-ce qui a été fait dans AlphaProof, mais selon leur bloc et selon ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il faut avoir beaucoup de données formelles. Et si on a autant de données formelles que le Python, un modèle serait aussi puissant que ce qu'on voit aujourd'hui, les modèles sont capables de faire dans le Python. Je vais expliquer aussi pourquoi c'est intéressant aussi de faire des maths formelles. Peut-être tout le monde ne s'intéresse pas au sujet, et je sais aussi qu'il y a des mathématiciens qui ne croient pas trop. En réalité, les maths formelles, c'est plus intéressant que ce qu'on pensait. La raison principale que nous, on s'intéresse aux maths formelles, c'est que pour avoir un impact sur le domaine des mathématiques, on pense que maths formelles, c'est le chemin nécessaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques qui consistent à faire ce qu'on appelle du self-play, ou faire des données synthétiques, ou faire des process de supervision. Les gens savent qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait la réussite de GPT-01 ou des modèles plus puissants. Mais ces approches-là dépendent, en tout cas, ça a l'air de dépendre beaucoup de qualité des annotations et des efforts humains pour créer ce genre de données. Et que cette approche-là n'est probablement pas scalable pour arriver au prochain niveau. Donc, une façon plus élégante de le faire, c'est d'avoir un vérificateur formel qui est capable de vérifier ces données-là qu'on génère. De manière plus, on va dire, intellectuelle, même si je ne suis pas expert du domaine, j'ai aussi pas mal de plaisir à apprendre des maths formelles. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que l'IA, enfin les LLM plus les maths formelles va probablement impacter beaucoup le futur, comment les gens apprennent des mathématiques ou même de la façon dont les mathématiciens travaillent. Par exemple, je vous donne un exemple très simple ici, comment démontrer 1 plus 1 égale 2. Ça a l'air complètement trivial. En tout cas, lorsque 1 et 2 sont dans des entiers naturels, on va appliquer une tactique qui s'appelle, enfin dans Link 4 en tout cas, qui dit que en fait, c'est presque la définition du 2. Mais ça devient très ça ne marche plus si 1 et 2 sont dans les flottants. La preuve de ça dans Link 4 devient plus compliquée si vous ne connaissez pas certaines techniques. Tactiques, pardon. Et la raison pour laquelle, en fait, moi je pense que ça peut être très enrichissant pour les undergraduates, essayer de faire des preuves de mathématiques en ligne parce qu'ils vont comprendre ce genre de subtilité. En réalité, lorsque vous faites des maths formelles, les flottants, enfin, je ne sais pas si ça existe vraiment, mais c'est une suite de Cauchy. Donc, il n'y a pas de définition de 1 plus 1 égale 2 dans les suites de Cauchy. Il faut tout ramener en donc, lorsque vous faites 1 plus 1, c'est les deux suites qui s'additionnent. Et donc, il y a un mécanisme plus compliqué. Notamment, il y a une tactique qui permet de projeter les flottants vers des entiers pour compléter la preuve. Alors, Il y a aussi un côté important du projet Lumina. Je ne vais toujours pas raconter qu'est-ce qu'on va faire après le prix, mais il y a un côté que nous trouvons important, c'est le côté open source et long profit. Aujourd'hui, les équipes qui sont capables de mener ce genre de recherche en maths formelles, en LLM, ce sont des grosses boîtes comme Google, DeepMind, Meta, OpenAI. Moi personnellement, moi je suis un peu inquiet du fait que un jour les recherches de maths vont partir peut-être des universités et aller dans ces entreprises privées parce que ça demande tellement de ressources. Et que c'est pas évident aujourd'hui si quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de problème, contrairement si quelqu'un qui s'intéresse, qui veut faire des maths, un jour il prend un papier, un crayon, il a internet, il peut appliquer à un PhD programme. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire faire du AI for math si vous n'êtes pas dans une des sociétés que je mentionnais précédemment. Et donc, nous, notre mission, notre vision de Lumina, c'est de dire qu'on aimerait bien quand même de créer une plateforme que les gens qui ont envie de contribuer dans cette science-là puissent participer. Donc, et que l'idée clé de tout ça, c'est, voilà, je cite Alexandre Grandfort, un professeur que je respecte beaucoup, donc qui est aussi le cofondateur de Scikit-learn. On aimerait bien, dans un monde idéal, en vrai, quelqu'un qui a envie de contribuer à quelque chose, ben, il n'aurait pas besoin de demander une autorisation de qui que ce soit. Aujourd'hui, malheureusement, dans ce domaine-là, on est très, très, très loin de ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire par la suite, Lumina? Pour résumer, voilà, on a fait une première phase où on essayait de faire des modèles informels et être l'état de l'art dans le domaine pour essayer de résoudre les problèmes de maths au niveau AMO. L'étape prochaine pour nous, enfin, en tout cas, nous, on pense que pour avoir un vrai impact dans la recherche mathématique, il faut passer par les maths formelles. Et il y a plein de bonnes raisons pour le faire, mais aujourd'hui, c'est un process très chronophage pour traduire des preuves vers du Linkad ou du Isabelle ou du Coq. Donc, on pense que LLM a un vrai rôle à jouer, mais le plus gros obstacle, c'est les données. Donc, notre mission jusqu'à l'année prochaine, ça va être créer ce dataset qui permet aux gens de construire AlphaProof. Donc, pour résumer, c'est qu'on voudrait créer une version open source d'AlphaProof ici, prochain AMO. Voilà, et pour ça, on a une équipe d'une dizaine de contributeurs de volontaires et quelques employés en temps plein. Et le plus gros, le plus difficile, c'est d'essayer de traduire les choses de informel, même les choses plus simples, très simples comme ça, pour avoir une tête compliquée en Linkat. Alors, pour ceux qui connaissent en Linkat, la raison pour laquelle la partie droite est un peu compliquée, c'est parce qu'on a fait une erreur. C'est encore très intéressant ici, c'est que le fait de prouver que la somme de 0 à n égale à cette formule devient beaucoup plus compliqué lorsqu'on fait la division par 2 au lieu de mettre la multiplication par 2 ici, parce que lorsque vous faites la division, le système considère que c'est du flottant. Et dès que vous faites du flottant, ben, tout devient plus compliqué en ligne. Voilà. Et d'ailleurs, anecdote, c'est Kevin Puzzle qui m'a dit qu'il y a une erreur dans la formalisation lors d'une présentation. Et voilà, pour ça, on travaille aussi, en tant qu'un non-profit, on n'a pas beaucoup de ressources, donc on travaille avec des différents collaborateurs, dont Mistral AI, Dust, on travaille aussi beaucoup avec Hugging Face, et on a aussi des soutiens financiers de différents partenaires. Et aussi, si par chance, vous savez très bien faire des mathématiques formelles, on cherche aussi des gens qui nous aident à construire ce dataset. Voilà. Et pour finir, tout ce qu'on fait, tout ce que je raconte aujourd'hui, c'est en ligne, donc tout est public. On a les données qui sont publiques, on a les codes pour entraîner les modèles qui sont publics, on a aussi décrit comment on a gagné la compétition de manière publique. Et idéalement, l'année prochaine, on aimerait bien peut-être gagner la médaille d'or en AMO avec une solution, bien évidemment, open source et les données qui sont open pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. J'ai dépassé un peu, mais du coup, je vais essayer de...
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.